La première keynote de l'année aura-t-elle lieu dans moins d'un mois, et plus précisément le 8 mars prochain? Un nouveau MacBook Pro y sera-t-il dévoilé? Sera-t-il le premier Mac à embarquer un processeur M2? Ce sera l'interrogation de la semaine dans un instant. Samsung a dévoilé mercredi sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme, la série S22, S22 Plus et S22 Ultra. Processeur gravé en 4 nanomètres, 50 mégapixels pour le capteur photo principal, ces nouveaux Galaxy S risquent-ils de faire de l'ombre à l'iPhone 13? Quand Meta menace de fermer Facebook et Instagram en Europe, info ou intox? L'affaire Spotify, dont le CEO persiste et signe, il ne débranchera pas le podcast de Joe Rogan. Il n'empêche Neil Young et les boomers montrent qu'ils sont toujours là. Ce sera le focus de Gilles. Un cocktail Molotov dans le dîner d'Eli, un nouvel OS qui se présomme reality, à suivre dans les rumeurs de la semaine. Et puis, c'est vous tout craché, comment créer votre Memoji sur Mac? Et oui, ça n'est pas possible que sur iPhone. On va voir comment avec le tuto audio. Bonjour et bienvenue, ici le commandant Vincent. Attachez vos ceintures, décollage immédiat pour l'épisode 77 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Salut les copains.
Salut.
Hello.
Salut.
Aujourd'hui, l'équipage est composé de François Letruédic.
Hello.
Elia Bitbol.
Hello.
Gilles Dounès.
Hello.
Les absents sont excusés, Jean-Christophe Ving, Fabrice Neumann qui s'est coincé le dos, on pense à toi Fabrice. Contrôle de la porte opposée, merci les garçons. Alors le programme est chargé. Comme chaque semaine, on n'oubliera pas les mises à jour de la semaine et un petit crochet, François, par ta maison connectée, tout petit.
Oui, tout petit. J'ai une ou deux petites news que j'ai vu passer depuis 15 jours à vous partager. Mais c'est vrai que du côté de la maison connectée, il ne se passe pas grand-chose en ce moment. C'est le calme plat.
Alors l'actu Apple ne s'arrête jamais, vous le savez, c'est pour ça qu'on a créé i5, déjà 112 épisodes. Ne ratez pas le prochain dès demain matin vendredi et tous les jours de la semaine. Chaque jour, les 5 infos essentielles dans l'écosystème Apple, un podcast audio, quotidien, facile à caser dans votre journée. 5 grosses minutes par jour et pour moins de 5€ par mois, 4,99€ sur Spotify et Apple Podcast. Alors essayez i5 et abonnez-vous. iWeek, son grand frère hebdo, reste lui gratuit, alors soutenez-nous sur patreon.com/iWeek. À partir d'€1,50 par épisode, on a besoin de vous. Et puis retweetez-nous et restez en contact en followant iWeek News sur Twitter. Et n'oubliez pas le hashtag iWeekLSA pour échanger avec nous. Dans un instant, début d'année en fanfare, la première keynote risque de ne pas attendre l'arrivée officielle du printemps. Le 8 mars pourrait être la date de la première keynote de 2022. C'est Mark Gurman qui a émis cette hypothèse de manière relativement sûre dans sa newsletter de dimanche. Il faut vous dire que quelques jours auparavant, notre ami Gilles Dounès nous avait soufflé cette même date. Alors je me tourne tout de suite vers toi, Gilles. Tu ne révéleras peut-être pas tes sources, mais peut-être que tu peux nous raconter l'histoire de cette date qui est arrivée jusqu'à tes oreilles.
Non, c'est de la pure déduction et tu m'as poussé à le tweeter, tu m'as engueulé parce que je ne l'ai pas fait. Et j'ai un axiome personnel, c'est-à-dire que quand j'ai ce genre de fulgurance et que je la partage avec tout le monde, en général ça tombe à plat, et quand je la garde pour moi ou que je la partage uniquement avec mes copains, ça tombe juste. Or là, effectivement, c'est tombé juste et j'ai simplement regardé le calendrier. J'ai vu que Apple proposait une promotion de financement sans frais jusqu'au 6 ou 7 mars, si ma mémoire est bonne. J'ai regardé le calendrier, j'ai vu que c'était juste la veille d'un mardi 8 mars en l'occurrence. Je me suis dit, à tous les coups, ils vont purger les canaux de distribution, histoire de faire place nette pour les nouvelles annonces.
Bon, bah écoute, a priori, c'est plutôt bien parti. Alors, il n'y a pas de confirmation officielle encore. François, Élie, qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse du 8 mars, François ?
Ça me paraît plutôt cohérent. Je trouve que les arguments qui viennent d'être émis par Gilles sont plutôt cohérents. C'est vrai qu'on s'attendait plutôt à une keynote mi-mars, mais après tout, pourquoi pas. Ça veut peut-être aussi dire que le matériel est prêt. Il y a le nouvel an chinois qui s'est produit cette semaine, si je dis pas de bêtises, donc ça aurait pu provoquer des retards. Maintenant, visiblement, c'est que tout doit être prêt et que voilà, la fusée est dans la rampe de lancement.
Élie, 8 mars, plausible ?
Bon, écoute, généralement, Marc Gurman a raison, donc on va pas le contredire, on n'oserait pas. Donc la date, moi, ça me semble un peu tôt, hein, parce que vraiment, on l'attendait pour fin mars, voire début avril. Hein, mais c'est plutôt une bonne surprise, parce que ça veut dire, comme vient de le dire François, que le matériel est prêt, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Après, sur le matériel, reste à voir le contenu de cette keynote, mais on va en parler. Là, on n'est peut-être pas d'accord.
Alors, juste sur cette hypothèse du 8 mars, ça veut dire que ce serait même avant le début du printemps, hein, on serait encore officiellement en hiver. Est-ce que ça pourrait laisser la place à une deuxième keynote de printemps, le cas échéant, à votre avis ?
Au début d'été.
Non, moi, à mon avis, on se reverra à la WWDC au mois de juin. Ça me paraît très étonnant qu'il y ait deux keynotes. Ça s'est rarement vu, sauf à avoir une keynote en tout début d'année, au mois de janvier, comme il y avait à une époque. Mais à mon avis, on aura mars et puis après, on se retrouvera au mois de juin. Et par contre, je pense qu'on sera bien occupé à partir du mois de septembre.
J'ai un début d'explication, peut-être, une hypothèse.
Oui, Gilles.
Elle a peut-être été avancée parce que... On a vu que les iPads n'étaient plus disponibles avant le début du mois de mars, justement. Sachant que Apple a pris toutes les pièces difficiles à trouver parce qu'elles étaient utilisées par tout le monde pour l'iPhone, qui est le plus demandé. Et sachant qu'il faut, s'il y a vraiment un iPhone SE3 qui est annoncé à ce moment-là, il faut commencer à faire du stock et donc à utiliser... d'autant plus de pièces supplémentaires. Et donc, pour éviter de trop plomber les ventes d'iPad, puisqu'il n'est plus disponible du tout maintenant avant un mois et demi, ils ont vraisemblablement, enfin, ils ont peut-être avancé aussi la date pour ça.
Ok. Bon, on sera bientôt fixé si elle a vraiment lieu le 8 mars, puisque c'est dans moins d'un mois maintenant. Alors, sur le contenu de cette première keynote de l'année 2022, tout le monde s'accordait pour dire qu'on y verrait l'arrivée du nouvel iPhone, donc l'iPhone SE de troisième génération, le premier qui embarquerait la 5G. On y verrait le nouvel iPad Air, qui doit rattraper son retard, hein, depuis les annonces de l'année dernière. Et puis la nouveauté, la surprise, et François, tu me disais dans i5 il y a quelques jours, ce serait quand même un peu léger comme contenu pour une keynote s'il y avait juste cet iPhone et l'iPad Air. On parle maintenant d'un nouveau MacBook Pro, alors peut-être le remplaçant du 13 pouces M1. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez positionner, ce potentiel MacBook Pro M2 d'entrée de gamme, comme on dit ? François, juste, et après on passe à Élie.
Élie fait non de la tête. Moi, ça fait, je trouve que depuis un an et demi, le MacBook Pro M1 est complètement dépositionné, dans le sens où il y a très très peu de différence entre le MacBook Air M1 et le MacBook Pro M1. La principale différence, en fait, c'est la Touch Bar, dont tout le monde s'en fout. Le processeur est le même sur le milieu haut de gamme. Il n'y a aucune différence en dehors du ventilateur. C'est la seule différence. Maintenant, moi, clairement, ça vaut pas la rallonge de prix. Donc, pour moi, il est complètement... il sert à rien. À mon avis, ça doit pas se vendre beaucoup. Alors, Élie pourra nous le dire s'il a les chiffres de tête. Mais je pense vraiment qu'il se vend très peu. Donc, il est clairement temps de le repositionner. Il y a sans doute une place entre les deux, entre le MacBook Air et le MacBook Pro 14 pouces. Donc, pourquoi pas un M2, ce qui différencierait clairement le MacBook Air M1 et du coup ce MacBook Pro M2 qui serait sans touch bar. À voir, peut-être qu'il reprendrait un petit peu le design du MacBook Pro 13 pouces, même complètement sans doute, avec un nouveau clavier vu qu'il n'y a plus de touch bar.
Eli, alors on parle plutôt d'un design inspiré des 14 et 16 pouces, hein, pas du 13 pouces, François.
Oui, c'est ça, c'est une des deux choses sur lesquelles j'ai des doutes. La première, parce qu'il y a eu des informations contradictoires, et même les mêmes ont donné des informations contraires. C'est-à-dire que, première chose, c'est déjà le design, parce que certains sites ont dit ça sera un 14 pouces, mais moins puissant. Donc le design est vraiment le look du 14 et du 16 pouces, mais moins puissant. Et tout de suite après, il y a eu d'autres sites qui ont dit non, ça sera un 13 pouces, ça sera pas un 14 pouces. Parce qu'il y en avait qui avaient dit c'est un 14 pouces, mais sans mini LED. Et l'autre a dit non, ça sera un 13 pouces. Donc du coup, déjà, c'est pas la bonne taille. Est-ce que ça sera un 13 ou un 14? Ça peut impliquer un certain nombre de choses au niveau des ports, au niveau de... Bon, suivant le design. Parce que est-ce qu'il, du coup, s'il s'inspire des autres, il aurait un port HDMI? La plupart disent non. Est-ce qu'il y aura un lecteur SD card? La plupart disent non. Donc du coup, on retombe sur peut-être un 13 pouces. L'autre chose, c'est
mais il y aurait plus, de ports que sur le 13 pouces M1.
Ça, on est assez d'accord. Très cohérent.
Qui n'en a que deux. Hein.
Après, ce qui m'embête le plus dans ces analyses, c'est le type de processeur. Est-ce que Apple va choisir ce MacBook Pro, qui serait donc une entrée de gamme, pour présenter la nouvelle gamme M2? Ça voudrait dire que, un, le processeur serait prêt, alors qu'on a vu jusqu'à une date très récente qu'il était plutôt en retard. Et l'autre chose, c'est que logiquement, tel que je connais Apple depuis si longtemps, pour lancer la gamme M2, il devrait commencer par le MacBook Air, qui va arriver, qui est prêt avec le nouveau design, avec les couleurs, etc.
Et pourquoi pas le 8 mars ?
Parce que alors là, ça serait vraiment une grosse nouveauté. Là, on parle, si la gamme, c'était pendant cette annonce, MacBook Air plus MacBook Pro, tous en M2, là, je dis oui. Si c'était le MacBook
Pro...
Et Mac Mini, absolument. Si c'était uniquement...
J'ai un Mac Pro, je vous le mets quand même ?
Non, pas de cette date-là. Si c'était uniquement un MacBook Pro M2, moi je dis c'est illogique par rapport à ce qu'a toujours fait Apple.
Gilles, est-ce que tu crois que Apple finalement va renouveler les trois premiers Mac qui étaient sortis avec le processeur M1 dans moins d'un mois ?
C'est possible, on en aurait entendu parler avant.
C'est
sur les trois références, je veux dire.
C'est on en a entendu parler, mais à des moments différents. C'est peut-être ça qui brouille les cartes.
Oui.
Effectivement. Mais c'est ce maintien d'une dalle de 13 pouces à côté de la 14 pouces qui, moi, me semble problématique. Enfin, qui m'interroge beaucoup pour des raisons de stock et de pièces détachées, d'approvisionnement. Il faudrait vraiment qu'il ait une spécificité particulière qui se démarque beaucoup du 14 pouces, en particulier au niveau du prix, pour qu'il ait vraiment un intérêt dans la gamme.
Alors, s'il renonce au mini LED, s'il renonce peut-être au HDMI et au lecteur de carte SD, s'il propose moins de RAM, moins de stockage... Si l'écran est un peu plus petit, forcément, il va finir par être moins cher.
Bah oui.
Ah. Pourquoi pas un MacBook Air à ce moment-là de 13 pouces ? C'est là où...
Eh oui, quelle sera la valeur ajoutée de cet éventuel MacBook Pro « abordable » entre guillemets entre le 14 pouces et le MacBook Air ?
Pas J'en évident. Sais
rien. Mais pas évident. Bon, on va suivre évidemment... l'actu au jour le jour dès la semaine prochaine dans iWeek et évidemment quotidiennement dans i5. Un mot de ce Mac Pro dont on a parlé très brièvement. Mark Gurman, notre ami confrère de Bloomberg, pense qu'il sera effectivement présenté à la WWDC au mois de juin, Ellie.
Oui, nous on pensait plutôt fin d'année, mais s'ils sont prêts, ils sont prêts. Et Apple a déjà lancé des Mac Pro à la WWDC. C'est le genre de machine qui plaît aux développeurs. Hein. Donc, s'ils sont prêts, ils vont le lancer à cette date-là.
Et selon Mark Gurman, plusieurs Mac seront annoncés lors de cette conférence mondiale des développeurs qui aura probablement lieu en juin, comme chaque année, mais dont on ne connaît pas encore les dates officiellement. Allez, dans un instant, on ouvre le dossier de la semaine consacré au principal concurrent de la gamme iPhone 13, les Galaxy S de Samsung qui viennent d'être dévoilés. Il s'agit du S22, du S22 Plus et du S22 Ultra. Risque-t-il de faire de l'ombre à nos smartphones préférés ? À tout de suite. C'était mercredi, en fin d'après-midi, difficile de le rater. Si vous avez ouvert Twitter, YouTube ou l'un de vos réseaux sociaux préférés, le live de la conférence Samsung Unpacked était à peu près partout. Samsung avait prévu de présenter sa nouvelle gamme de smartphones en ce 9 février 2022. Alors on est quasiment à 6 mois de la présentation des iPhones par Apple. Alors tous les ans on se demande si Samsung rattrape son retard ou au contraire prend 6 mois d'avance sur Apple. On va pouvoir en discuter. Je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de temps pour apercevoir les caractéristiques de ces nouveaux smartphones. Peut-être que vous avez vu leur design déjà, ça peut être un premier point sur lequel on peut échanger. Pendant que je vous présente cette gamme, faites un petit tour si vous voulez pour jeter un œil au design de ces Galaxy S22, 22 Plus et 22 Ultra. Alors le 22 Ultra, on va le garder de côté parce qu'en fait c'est le successeur du Galaxy Note. C'est un phablet, hein, comme ça qu'on appelle ces très très grands smartphones qui sont en fait à cheval entre smartphone et tablette. Comme le Galaxy Note d'autrefois, le S22 Ultra est doté d'un stylet, le fameux S Pen, qui peut se ranger dans la carrosserie même du S22 Ultra. Alors les caractéristiques essentielles, d'abord il y a 5 capteurs au dos, donc il est évidemment super boosté au niveau photo et vidéo. L'écran c'est du 6,8 pouces, c'est du dynamique AMOLED avec on va dire le ProMotion à la Samsung, puisqu'il est capable de passer du 1 Hz au 120 Hz en fonction des besoins. La luminosité est assez impressionnante puisque Samsung annonce du 1750 nits avec une fonction qui s'appelle Vision Booster qui en fait fait du mappage de tonalité des contenus à l'écran en temps réel et qu'il adapte en fonction de la luminosité ambiante. Le processeur, c'est du 4 nanomètres, comme sur la gamme S22 et S22 Plus. Samsung annonce des performances en machine learning en hausse de 73% par rapport à la gamme précédente. Ce qui va intéresser les photographes et les vidéastes, c'est qu'il y a un moyen de débrayer tous les automatismes sur la photo et la vidéo pour faire tous les réglages en manuel, sachant qu'on dispose d'un zoom optique 3 fois et 10 fois sur le Ultra. On peut passer aussi en mode expert RAW pour contrôler la sensibilité, la vitesse, le diaphragme, etc. complètement à la mano. Il embarque une version d'Adobe Lightroom dans le cadre d'un partenariat avec Adobe. Et donc il sera proposé en 4 couleurs, bordeaux, vert, blanc et noir, à partir de 1 259 €, donc pour ce Galaxy S22 Ultra. Ça c'est le modèle, on va dire, un petit peu en marge. Oui, une sorte de Rolls. Je ne sais même pas si on peut le comparer au 13 Pro Max, parce que la seule présence du stylet fait qu'il est forcément déjà différent. On peut revenir sur le S22 et le S22 Plus. Donc je vous donne tout de suite les prix. Le S22 démarre à 859 €, le S22 Plus à 1059 €. Le capteur principal c'est du 50 mégapixels, 10 mégapixels pour le télé. Il y a 3 capteurs les uns au-dessus des autres sur la face arrière. J'avoue que l'intégration est relativement réussie, je trouve, et le design est lisse et plutôt pas mal. On retrouve des caractéristiques qui font penser à des fonctions qu'on a découvertes sur l'iPhone, notamment l'iPhone 13, avec notamment un mode Super HDR, donc encore mieux que le HDR, qui va vous assurer des images équilibrées même en contre-jour. Pour les photos en basse lumière et les photos de nuit, Samsung appelle ça le mode Nightography. L'équivalent du mode portrait chez Samsung a un nom beaucoup plus compliqué qui est le AI Stereo Depth Map. On retrouve un autre équivalent de ce qui existe dans l'univers Apple, à savoir le duo FaceTime SharePlay en partenariat avec Google dans le cas de Samsung, qui s'appelle donc le Live Sharing avec Google Duo. Et voilà, donc pour l'essentiel des caractéristiques de ces nouveaux smartphones Samsung qui seront dispo à partir du 25 février. Votre réaction, mes amis, à ces annonces de Samsung, est-ce que la concurrence a du bon, et est-ce qu'elle va motiver les équipes d'Apple à faire encore mieux avec l'iPhone 14 dans 6 mois, à votre avis?
Ben, en fait, je pense que ce qui est important, c'est ce que tu viens de dire, c'est que il faut pas oublier que Samsung a toujours annoncé ses téléphones avant Apple, depuis toujours. Et donc, ce qu'on lit à droite et à gauche, c'est comment est-ce qu'il se compare à un iPhone 13? C'est pas ça. C'est comment est-ce qu'il se comparera à un iPhone 14 lorsqu'il sera là? Parce que là, forcément, il est meilleur. Il est sorti 6 mois après. Donc, mais bon, pour l'instant, ça a l'air pas mal en caractéristiques. Hein. Moi, ça me passionne pas, mais ça a l'air pas mal. De notre côté, quand on verra l'iPhone 14, on pourra en parler.
François, ta première impression sur cette nouvelle gamme Samsung Galaxy S?
Bah, je trouve ça plutôt cohérent. C'est vrai que l'équivalent du Galaxy Note a toujours eu ses fadas avec le stylet. C'est vrai que ça peut avoir un aspect pratique. Le fait de réussir à mettre le stylet dans le châssis, c'est plutôt une réussite quand même malgré tout. Je trouve qu'ils sont plutôt réussis, ils sont plutôt beaux. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est tous les partenariats que Samsung peut faire, que ce soit avec Google, que ce soit avec Adobe et autres. Ça montre aussi voilà, une volonté de ne pas être tout seul dans le bateau. Et puis moi, c'est vrai que sur l'aspect photo, je suis toujours assez intéressé. Le rendu est particulier selon la marque de téléphone que vous allez utiliser. Le rendu des photos va être toujours différent parce que les fabricants font un choix en matière de colorimétrie, en matière de traitement aussi. C'est vrai que pour avoir eu l'occasion encore de retomber sur des photos de nuit de pixels, je trouve ça un peu fake. Il y a un juste milieu à avoir. Mais le rendu de Samsung a toujours été plutôt réussi. Et c'est vrai que quand on voit les specs techniques, Apple, ça fait quand même quelques années que... Au niveau de l'intelligence artificielle, ça évolue, mais au niveau des capteurs en eux-mêmes, ça n'évolue plus. Et là, je pense qu'il va clairement être temps pour Apple de se mettre à la page et de se mettre à jour. Ça fait partie des rumeurs qu'on entend régulièrement. Donc voilà, je suis plutôt curieux de savoir ce qui va être annoncé. Mais l'aspect gestion manuelle, je trouve ça intéressant, et c'est dommage qu'Apple ne pousse pas le curseur encore plus loin. On l'a vu avec la photo de nuit, le fait que le temps de pause soit indiqué, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait vraiment toutes les fonctionnalités qui soient débrayables, qu'on puisse vraiment choisir ce qu'on veut faire. Au choix, c'est-à-dire laisser la possibilité à l'utilisateur de les activer ou pas. Pour les gens qui n'aiment pas la photo, qui ont juste envie d'avoir un moment T, laisse tout activer, et ceux qui ont envie de régler puissent le faire.
Gilles, ta réaction à l'annonce de cette gamme Samsung?
La transition est toute trouvée avec François sur deux points. On rattrape au niveau machine learning, etc., et logiciel, l'avance qui était prise par Apple, et on essaie de mettre prendre un pas d'avance un petit sur les téléobjectifs, le capteur, etc. Quand j'ai vu les annonces sur le Vision Booster, l'accent qui était mis sur le machine learning, j'ai eu très peur que ce soit Samsung qui intègre en premier les choses dont on avait parlé il y a 2 semaines ou 3 sur l'utilisation des données d'un capteur d'image polarisée. Et donc j'étais voir sur ton conseil le design, et il y a la petite bosse au niveau des objectifs d'appareil photo. Donc a priori ça n'est pas intégré encore par Samsung. Donc il y a des chances que ça soit bien Apple qui l'intègre. Et on retombe sur la keynote. L'intégration de cette nouvelle technologie est promise pour le printemps. Donc, il y a une chance pour que ça puisse être dans un iPad, peut-être pas Air, mais un nouvel iPad Pro, dans la mesure où, auparavant, c'était l'iPad Pro qui avait été le premier à intégrer le LiDAR il y a 2 ans, souvenez-vous. Donc Samsung reprend un tout petit peu d'avance, un pied par rapport au retard qu'il avait pris, au coup de vieux qu'il avait pris par rapport à l'iPhone 13.
Juste un mot pour vous dire que Samsung a profité de cette conférence qui était produite, enregistrée, préenregistrée, hein, comme fait Apple depuis le début de la pandémie, pour dévoiler aussi sa nouvelle gamme de tablettes, donc les Galaxy Tab S8. On retrouve le 3 modèles comme pour les smartphones, donc la S8, la S8 Plus et la S8 Ultra. La S8 Ultra, c'est du 14,6 pouces, donc c'est une très très grande tablette. On va rappeler que l'iPad Pro, le plus grand, est à 12,9 de mémoire.
Hein, c'est
ça. Elle fait quasiment 2 pouces de diagonale en plus. C'est du Super AMOLED, donc l'écran est vraiment, a l'air vraiment assez fabuleux. Le bezel, donc la bordure, ne fait que 6,3 mm. Il y a une fonction de auto-framing qui m'a rappelé le cadre centré d'Apple. Le S Pen, toujours donc le stylet avec une latence qui a été réduite de plus de 30%. Le Galaxy S peut servir de palette de couleurs, par exemple, quand vous faites du dessin au stylet sur la tablette. Il y a un partenariat avec LumaFusion, donc l'éditeur d'un logiciel de montage vidéo très utilisé par les pros. Et c'est à nouveau bien sûr. Oui. Et c'est à nouveau du 4 nanomètres avec jusqu'à 16 gigas de RAM et 1 Tera de stockage. Samsung offre le clavier, la protection clavier pour ceux qui passent précommande avant la dispo. Et puis il y a aussi une nouvelle Galaxy Watch, la Watch 4, avec l'OS co-développé avec Google, donc Wear OS. Et Samsung annonce l'arrivée bientôt de Google Assistant sur sa montre connecté. Le Samsung Wallet accepte désormais les crypto-monnaies. Et j'ai entendu une phrase à la fin de la conf, je l'ai noté. La dame de Samsung qui était à l'écran a dit « Contrairement aux idées reçues, l'ouverture et la sécurité peuvent coexister. »
J'y ai
vu
facile.
Une allusion directe à... on va dire au combat d'Apple pour protéger l'App Store. Et puis il y a un détail marrant sur la gamme Galaxy S22 que je ne vous ai pas donné, c'est qu'il est fait en partie avec des filets de pêche récupérés au fond des océans. Voilà, 50 tonnes je crois de filets de pêche qui ont été transformés. Samsung fait dans le green, comme on dit. Allez, on marque une toute petite pause et on se retrouve pour Pommes. On va revenir sur 3 news majeures de cette semaine. À tout de suite. Pommes, 3 news de la semaine qui nous ont marqué et dont on a forcément déjà parlé dans i5. La première, c'est ce chantage du groupe Meta, le nouveau nom de Facebook. Lundi, le Parisien titrait « Facebook et Instagram fermés en Europe, faut-il croire à cette menace de Meta ?» Alors je sais que vous avez forcément des choses à dire sur le sujet. Il se trouve que dans un premier temps, Facebook a reproché à Apple, avec ses différentes technologies incorporées à iOS 15, de lui faire perdre 10 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année 2022 en chiffre d'affaires. Par-dessus ça, il y a évidemment les nouvelles réglementations votées ces derniers jours, dernières semaines au niveau européen, qui font que Facebook, alors maintenant dit un peu le contraire, mais a laissé entendre qu'il pourrait considérer que finalement l'Europe n'est plus un terrain de jeu et donc qui pourrait être amené à fermer purement et simplement Facebook et Instagram en Europe. Ellie, je te vois faire non de la tête.
Oui, parce que tout de suite après, il y a quand même un responsable de la communication de Meta qui a dit que l'Europe était quelque chose de très important pour Meta et qu'il n'envisageait vraiment pas de fermer l'accès aux Européens. Et certains journalistes qui ont fact-checké ont vu que ça représente 25% quand même des revenus de Facebook, l'Europe. Hein. Donc ça représente quelque chose comme 35 milliards de dollars, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Et donc, ils ne peuvent pas fermer. Hein. Franchement, ils ne peuvent pas. Et avec ces coûts de 10 milliards chez Apple un jour, 10 milliards l'Union européenne de l'autre, il y a une nouvelle référence chez Facebook. C'est le méta, c'est 10 milliards de dollars. Quand je dis j'ai perdu 2 méta, j'ai perdu 20 milliards. Voilà, c'est la nouvelle monnaie de référence, le méta.
François, tu crois à cette possibilité que Facebook et Instagram cessent d'être accessibles en Europe ?
Non, je pense qu'il y a trop d'argent en jeu et puis trop d'emplois aussi. Alors il y a les emplois directs, j'ai vu passer ça sur Twitter et j'ai vu un feed et c'est vrai que c'est pas faux. Il y a les emplois directs chez Meta et puis il y a aussi tous les emplois qui dépendent aussi des réseaux sociaux. Il y a quand même aujourd'hui les postes qu'on appelle les community managers, les personnes qui sont en charge des réseaux sociaux dans les entreprises, les administrations, les associations, ça présente un gros paquet de personnes d'embauche. Donc c'est vrai qu'on a vu beaucoup de commentaires disant bah, c'est pas grave, fermez si vous voulez, mais il faut penser à l'impact économique que ça peut avoir derrière, que ce soit pour Meta ou pour plein de gens. Donc même si voilà, je pense qu'il y a des choses à recadrer sur Facebook, mais on peut pas souhaiter que le réseau s'en aille. Et voilà, c'est une menace comme une autre, je pense, mais ça m'étonnerait qu'ils mettent la menace à exécution.
Alors je le disais, à l'entreprise est entre guillemets menacée par plusieurs évolutions récentes, dont la réglementation européenne qui limite le transfert de données entre l'Europe et les États-Unis et qui pourrait contraindre la maison mère à ne pas pouvoir, je cite, « offrir un certain nombre de nos produits et services les plus importants, y compris Facebook et Instagram en Europe ». Gilles, comment est-ce que tu lis, comment est-ce que tu entends cette menace un petit peu voilée de Meta ?
Ils ont déjà fait le coup aux Australiens, souvenez-vous, qui, eux, ont retiré leur législation. Maintenant, je n'imagine pas une société cotée en bourse faire la croix sur 25 milliards. Et je me demande combien de temps Mark Zuckerberg pourrait garder son poste et à quel niveau finirait l'action. Pour répondre à ce que disait François, il n'y a pas que Instagram ou Facebook qui commence à perdre des utilisateurs, ils perdent de l'adhérent chaque jour, comme on dit dans les tontons flingueurs.
Ça m'étonne, Gilles, qui je crois.
Les derniers chiffres, ils ont perdu de l'utilisateur actif.
Ouais, ok, bah, c'est vraiment la première fois alors, parce que ça ne t'est jamais arrivé.
C'est la première fois depuis des années. La jeunesse boit des eaux pétillantes et les anciens combattants des eaux de régime. Et le passif perd de l'adhérent chaque jour. Et donc, l'entreprise qui a le réseau social qui a le trend, c'est TikTok.
Bien sûr.
Demain, il y en aura peut-être un autre. La nature, horreur du vide. Donc, il y a Twitter qui est là. Et si Facebook ferme boutique du jour au lendemain en Europe, il y aura autre chose qui prendra le relais et les community managers ont déjà fort à faire ailleurs, même si ça prend une grande place et s'il y a un grand nombre de petites entreprises qui ont pris l'habitude de communiquer là-dessus. Ils ont fait exactement le même coup aux Australiens, souvenez-vous, et les Australiens se sont contentés de belles paroles et sont revenus sur la législation un peu similaire qu'ils comptaient mettre en place. Là, on parle... Élie l'a très bien dit, on parle de 25 milliards. Ils peuvent s'ils veulent. Maintenant, tu as un PDG qui, pour éviter de se conformer à la législation européenne, fait une croix sur 25 milliards. Combien de temps il va garder son poste et combien de temps l'action va durer?
En fait, si on demande à des jeunes quel serait l'impact, ils disent... Oh ben on s'en fiche, de toute façon Facebook on n'y est plus depuis longtemps. Donc en fait ils ont migré progressivement. Il y a eu d'abord du Facebook, c'était le premier réseau social. Ils sont passés ensuite sur Instagram, ça les a fatigués assez rapidement. Ils sont passés sur Snapchat. Puis maintenant ils sont sur TikTok. Donc tant qu'on ne touche pas à TikTok, tout va bien. Si on menace de fermer TikTok, c'est la révolution.
Ils sont pas sur Clubhouse?
Non.
Alors moi il y a un chiffre qui m'a étonné quand même. L'Europe, ça représente 427 millions d'utilisateurs actifs. Ça n'est que 14% des utilisateurs de Facebook dans le monde. Que l'Europe ne pèse que 14%, ça m'a un peu étonné. Je me dis finalement, oui, il pourrait fermer l'Europe. Bon, 14%, c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus, c'est pas 50%, quoi.
Mais quelle est la part du chiffre d'affaires et du revenu publicitaire ? C'est pas les mêmes marchés.
Très juste. Bon, on va passer à la deuxième news de ce POMES. Est-ce que Apple, à votre avis, va devenir fabricant de vélos d'appartement, de vélos connectés, hein, des vélos un petit peu intelligents, un petit peu perfectionnés? Vous savez qu'Apple fait partie des deux, trois très grands noms qui pourraient peut-être faire un chèque pour s'offrir Peloton, le fabricant donc de vélos connectés. Il se passe beaucoup de choses autour de Peloton en ce moment. D'abord, le CEO, le fondateur, cofondateur, est en train de partir. Il cède son fauteuil à un ancien de Spotify, Barry McCarthy. Peloton va aussi licencier 20% de sa masse salariale. 2800 personnes vont partir. Peloton, il y a un an, valait 50 milliards. Aujourd'hui, ça ne vaut plus que 8 milliards. C'est peut-être aussi pour ça qu'on se dit qu'il y a une opportunité pour un géant. Alors, ça pourrait être Apple, ça pourrait être aussi Amazon ou Nike, qui sont aussi dans les rumeurs du moment.
C'est plus logique.
Ouais. Tu penses, Elie, que c'est plus logique un Nike qu'un Apple, même si on pense à Fitness Plus?
Ben,
un complément,
oui,
à Fitness Plus.
Ben, Apple a déjà fait des folies financières comme ça pour moi, mais quel serait l'intérêt pour Apple, à part qu'ils ont beaucoup d'argent, de rajouter des vélos connectés? Je ne connaissais pas Peloton, mais je sais que c'est super populaire aux États-Unis, peut-être en Europe, mais en tout cas, moi, je ne les connaissais pas avant, donc je suis allé voir. J'ai vu ça d'ailleurs dans des séries télé. Donc, il parle effectivement, je vais faire du peloton. Donc, ça m'avait un peu interloqué. Mais que viendrait-il faire dans cette galère, Apple? Je ne sais pas ce que ça pourrait leur apporter. Je pense que c'est beaucoup plus logique que Nike, qui est en plein dans le sport, rajoute une gamme de produits sportifs. Ou même en France, on aurait pu dire Decathlon aurait pu s'offrir ça. Mais Amazon, parce qu'ils sont sur du multimarché. Apple, ils ont une gamme de produits. Ils vont rajouter à leur catalogue des vélos. Avant, ils faisaient des imprimantes, ils les ont supprimées. Ils faisaient des routeurs Wi-Fi, ils les ont supprimés. Ils se sont concentrés sur leur cœur de métier. Je ne sais pas si c'est le moment de s'ouvrir à des vélos, quoique un vélo, ça peut être le portail d'entrée pour une voiture. Hein. Donc, bon.
Bon, la troisième news de la semaine, c'est les craquements autour de l'App Store. Alors, on avait dit un mot de la Corée du Sud il y a quelques semaines. Là, c'est aux Pays-Bas que ça se passe. Et pour la troisième semaine d'affilée, Apple a été condamné à payer 5 millions d'euros d'amende. Pour ne pas avoir respecté l'injonction d'ouvrir les paiements alternatifs sur l'App Store néerlandais aux apps de rencontres comme Tinder. C'est l'autorité néerlandaise de la concurrence qui estime ne pas avoir reçu de preuves suffisantes de la part d'Apple que la marque s'est conformée à l'injonction. Alors, ce qui est quand même assez fou, c'est que Apple a quand même mis un tout petit peu d'eau dans son vin. D'abord en faisant amende honorable, en acceptant de permettre bientôt, on ne sait pas quand, aux développeurs de développer des apps séparées qui permettraient des paiements alternatifs, mais en continuant de percevoir une commission, alors qui serait plus de 30%, mais de 27%. Alors les éditeurs crient au scandale, même Tim Sweeney, qui n'est pas concerné a priori, a réagi en disant que c'était un scandale.
C'est fait exprès, à mon avis.
Oui. Ah oui.
Pour le faire hurler.
Mais alors, quel est le sens de cette modification du taux de la commission qui, quand même, est une reculade, même si ça n'est que 3 points, mais...
Si c'est plus sur l'Apple Store, ça justifie plus une commission de 30%, un loyer, avec la vérification des apps, la mise en avant, etc., etc. Là, 27%, à mon avis, c'est de... Je ne sais pas comment ils le justifient, mais c'est tout simplement de la provocation et de la mauvaise volonté. Je comprends pas cette polémique. Pourquoi ils ne font pas des achats in-app? Et puis l'autorité de régulation est en plein dans un combat d'arrière-garde à vouloir absolument séparer les contenus des tuyaux ou des distributeurs. Hein. C'est ce qui a été fait pour l'électricité, le gaz. On voit dans quel merdier on est actuellement.
Bah oui.
Le train. Ils essaient de faire la même chose pour les applications et les boutiques. Si vraiment ils veulent peser sur les distorsions de concurrence, il faut qu'ils s'attaquent aux impôts sur les sociétés, à taper au lieu de 15%, taper à 40-50%, et les multinationales n'auront plus les moyens de développer des services potentiellement difficiles à contourner pour la concurrence. C'est, pour moi, c'est un non-sens et un combat d'arrière-garde. On est dans les années 70, quand il a fallu démanteler les chaînes de cinéma, les salles de cinéma des studios hollywoodiens, où quand on a démantelé AT&T. Enfin bon, c'est, pour moi, c'est aberrant.
Merci Gilles. Bah, écoute, tu es chaud, ça tombe bien. On te retrouve dans 3 secondes pour ton focus. On va revenir sur une autre marque avec laquelle Apple a un peu des problèmes en ce moment, même si pour le coup, cette fois-ci, c'est pas à cause d'eux, c'est Spotify. À tout de suite. Gilles, ton focus cette semaine, alors il est consacré à Spotify, mais surtout un peu au revival des boomers.
Oui, vous savez que j'aime beaucoup Neil Young. C'est grâce à lui que j'ai compris comment fonctionnait un harmonica. On fête les 50 ans de l'album Harvest, là, et on va revenir sérieusement un peu sur l'empreinte entre Neil Young et Spotify et essayer de prendre un peu de hauteur. Tout le monde en a parlé, nous aussi, au fil de l'eau, que ce soit dans iWeek ou dans i5, mais avec le véritable feuilleton quasi quotidien des annonces des uns et des autres, on a un peu de peine à croire que la foire d'empoigne entre Neil Young et Spotify a débuté il y a à peine 15 jours. Alors, rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Neil Young a poussé un coup de gueule contre Spotify et Joe Rogan en l'accusant, le bonhomme, de diffuser des contenus anti-vax et menaçant de retirer son catalogue de la plateforme si Rogan n'était pas dégagé. Bien entendu, le numéro 1 du streaming a refusé de s'asseoir sur 6 millions d'auditeurs mensuels et 2,5 millions d'abonnés de Rogan. Chaque épisode réunit quand même 11 millions d'auditeurs. Du coup, Neil Young s'en va avec son catalogue, suivi par Johnny Mitchell, puis Nice Lockgren, et puis plus récemment par David Crosby, Stephen Stills et Graham Nash, qui ne sont pas inconnus ou plus anciens de nos auditeurs.
Crosby, Stills et Nash, François.
Désolé, je ne connais pas.
Ah, moi j'aime beaucoup.
Vous prenez sûrement tort, les gars. Tout récemment, l'affaire s'est compliquée avec un certain nombre d'épisodes du fameux Joe Rogan qui ont refait surface, dans lesquels le mot « nègre » était abondamment employé et où les quartiers à forte communauté afro-américaine étaient comparés à la planète des singes. Alors, autant dire que Daniel Ek, le CEO de Spotify, et Joe Rogan, qu'il avait joué sur le mode des héros de la libre expression, ont été obligés d'en rabattre copieusement et que pas moins de 70 épisodes du fameux podcast ont été dégagés. Et Neil Young appelle à présent les employés à quitter la boîte au nom des valeurs de cette même boîte qui ne sont pas vraiment, vraiment recommandables et en lien avec l'air du temps. Alors, au-delà des gros sous, on parle quand même d'un deal à 100 millions de dollars pour signer Hogan, contrebalancé par 100 autres millions, promis en urgence pour des causes avec moins de visibilité. Il y a un chiffre d'affaires de la publicité sur les podcasts qui devrait passer de 842 millions de dollars à plus de 2 milliards en 2022. il y a également quelque chose de la personnalité des protagonistes. D'un côté, on a des libertariens comme Rogan ou Eck, des deux côtés de l'Atlantique. Rogan est né sur la côte Est, mais c'est les mêmes personnalités que Mark Zuckerberg, qui était au mariage de Eck, ou Tim Sweeney, qui sont pour la liberté de... C'est vraiment celle de se remplir les poches. Et de l'autre, on a des Californiens. Tout le monde se connaît. Crosby, Stills et Nash a joué avec Neil Young. Nils Logan est un ancien du groupe de Neil Young. Et Johnny Mitchell est l'ancienne petite amie de Graham Nash. Tout ce petit monde était dans Laurel Canyon, qui est l'équivalent du Ashbury High à San Francisco ou du Greenwich Village à New York, c'est-à-dire vraiment la contre-culture. C'est dans la banlieue de Los Angeles, c'est Beverly Hills sans le fric. Et pour ces gens, ces Californiens, on peut faire du business, certes, mais surtout avec des valeurs. Et on n'est pas très très loin de la philosophie d'Apple qui fait du business avec des contenus, certes, mais pas n'importe quoi et avec du sens derrière.
Merci Gilles, tu n'as pas respecté le chrono, la semaine prochaine ce sera le fouet.
Je suis pas là, je vais rater ça.
Alors si vous n'avez pas vu, si vous n'êtes pas dans la version vidéo du podcast, vous ne pouvez pas savoir qu'on a mis en place un compte à rebours pour chaque chronique et que le compteur ne tourne pas plus vite pour Gilles que pour les autres.
Portion congrue.
En tout cas, ça nous permet de vous proposer un rendez-vous plus compact et un petit peu plus court, si tout va bien, à partir de cette semaine. Allez, on passe aux mises à jour de la semaine. Il y en a, parce que les bêtas sont arrivées avant-hier. À tout de suite. Les mises à jour de la semaine, alors ce sont des bêtas développeurs pour la plupart. Il y a au moins une bêta publique, celle d'iOS 15.4. Ellie, tu as été le premier à les voir, le premier à te jeter dessus. Est-ce que tu peux nous les présenter, ces bêtas qui enfoncent un peu le clou des premières qu'on a eues il y a une petite semaine?
Oui, absolument. Un petit tour rapide parce qu'on n'a pas tous les détails, évidemment. C'est des bêta 2 cette fois-ci. Encore une fois, je ne les ai pas installés. Hein. J'ai regardé ce qui change et c'est intéressant. Mais c'est des bêta, donc ça veut dire que j'ai pris la précaution d'aller sur le site développeur Apple et de lire les release notes. Et les release notes, je vous assure, ça fait un peu peur. Donc n'installez pas ça sur une de vos machines de travail, parce que rien qu'iOS, je vous donne un ou deux exemples. Si par exemple vous lancez l'application santé et que vous essayez de lire votre oxygène sanguin, ça plante l'iPhone. Bon, tout ce qui est HomeKit, donc c'est dans les choses qui seront réglées bien sûr dans la finale, mais qui ne marchent pas aujourd'hui dans la bêta 2. On ne peut pas jumeler un accessoire Thread. C'est un peu embêtant hein, quand on fait de la domotique. Tout ce qui est Matter, s'il y a plus d'un point Matter, ça ne marche pas. Ça fait complètement disparaître les appareils de l'application maison. Bon. Des choses sur iTunes qui font que votre contenu que vous avez acheté n'apparaît pas. Tout ça, c'est des petites choses, mais ça peut être un peu surprenant. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Si on prend iOS, parce que c'est le plus populaire, évidemment. Alors, il y a des choses très nouvelles dans 15.4. Cette fonctionnalité qui s'appelle Tap to Pay, qui figure dans 15.4, dont je vais vous parler juste 10 secondes, mais que vous ne pourrez pas utiliser, parce que Tap to Pay, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser votre téléphone ou votre carte bleue comme du paiement sans contact. Peut-être qu'aux États-Unis, ça n'existait pas. Nous, en France, le paiement sans contact, ça fait tellement longtemps qu'on l'a, parce qu'on a des cartes à puce, hein, dans nos cartes de crédit et tout ça, que ça n'étonne personne. On va à la boulangerie avec, etc. Donc pour nous, pour les Américains, c'est très nouveau. Ils disent, mais ça va être incroyable, parce qu'à partir de ce printemps, vous allez pouvoir aller avec votre téléphone ou votre carte de crédit, et taper sur un iPhone qui sera donc un terminal de paiement. Mais un terminal de paiement, certes, mais pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut un partenariat parce que, OK, on a tapé sur l'iPhone, mais les sous, ils vont où ? Donc, du coup, Apple annonce un partenariat aux États-Unis d'abord, mais peut-être plus tard dans le reste du monde avec Stripe. Stripe qui est très connu puisqu'ils ont déjà un petit boîtier qui permet d'accepter des paiements. Donc du coup, ils vont se retrouver un peu, le hardware ne va plus se vendre puisque ça marchera directement sur les produits Apple. Mais leur logiciel, lui, qui peut être intégré à un site marchand, permettra de recevoir des paiements simplement sans contact, en utilisant Apple Pay, bien sûr, mais en utilisant les cartes de crédit, etc. Et ça sera rigolo si quelqu'un, à part Stripe, développe une application de style échange de monnaie comme on a en France, il y en a plein, du style je veux passer 5 euros à François, ben, on tape nos iPhones, bon là on est un peu loin,
seulement.
Et du coup on fait un transfert d'argent comme ça. Mais c'est, la fonction c'est taper, parce que ça utilise la puce NFC, donc ça ne marche pas à distance, hein, c'est pour ça que je te dis on est un peu loin. Ce n'est pas pour envoyer de l'argent électroniquement à travers Internet, c'est vraiment du sans contact. Apple a ouvert NFC, c'est ça qu'il faut retenir.
Ok, bon.
D'où l'expression « je me suis fait taper 5 euros par François ».
C'est bon, ça. À part ça, et très rapidement, il y a le fait de pouvoir débloquer l'iPhone en portant un masque sans avoir besoin d'un Apple Watch. On l'attendait depuis que la pandémie existe. En 15.4, on pourra enfin déverrouiller son iPhone masqué.
Dans la bêta 2, il y a une petite modification. Subtilité. Ouais, si le déverrouillage ne marche pas, il y aura un message à l'écran qui vous dira, je crois qu'il faut baisser le regard. Je crois que
c'est ça.
Ça va être ça la petite différence avec la bêta 2.
Tu baisses ton regard tout de suite.
Voilà.
Quand tu me regardes.
Exactement. On pourra aussi rajouter des certificats numériques. Mais alors justement, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Un des bugs, c'est qu'on ne peut pas rajouter son certificat Covid directement dans l'application Wallet en France. Le bug est français. Et il y a deux autres pays, hein, mais qui nous concernent moins. Mais donc, il y a trois pays dans lesquels ça ne marche pas. Et malheureusement, la France. Donc, si vous voulez votre certificat Covid dans Wallet, pas de 15.4 pour le moment. La finale, bien sûr, permettra de le faire.
Juste qu'on a choisi d'éviter les technos Apple et Google, donc pas étonnant.
Mais il y avait un pont qui avait été mis à disposition par un développeur allemand, je crois.
Oui, bien sûr.
Et tu l'embrasses.
Pas un site web. Oui, pas officiel. Et ça veut dire que tu confies ton certificat numérique à un site web qui, en fait, le transpose dans Wallet. En attendant, tu as filé ton certificat numérique. Comme il y a beaucoup de faux qui circulent sur Internet, moi, je l'ai fait au tout début, hein, mais je ne l'ai plus refait après. Je passe par tout anti-Covid, hein, qui me l'affiche comme un widget directement sur l'écran du Mac. Hein, donc, puisque maintenant, tout anti-Covid, il le met comme widget, hein, de la taille que vous voulez. Donc
sur l'écran de ton Mac, carrément. Tu travailles avec ton Mac, du coup.
Mon iPhone.
C'est une bonne autonomie. Là, hein.
Ça y est, non, mais il fallait que je dise une bêtise, excusez-le. J'en avais pas fait.
Il se balade avec son MacBook.
Voilà, je me balade avec mon MacBook. Voilà mon certificat, il est là.
Bon, Ellie, ça c'est la version, donc la bêta 2 15.4 d'iOS.
Yes.
François ?
Non, je disais qu'il avait dépassé son temps, c'est fini, voyons.
il faut quand même qu'on parle des autres, on ne peut pas ne pas en parler. Donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur les autres bêta 2, Ellie ?
Bah, très rapidement, excusez-moi du dépassement, iPadOS, rien de nouveau puisque c'est lié à iOS, donc rien de plus ni de moins. TVOS, rien de marquant. Et dans Monterey, puisque on change de système, y a Universal Control, hein, dont on a déjà parlé effectivement, puisque maintenant les bêtas sont arrivés. Il y a Universal Control, qu'on a tous envie d'essayer.
Et la résolution du bug de charge de batterie aussi. Hein.
Absolument, tu as raison.
Hein, sur les MacBook Pro, c'est ça ?
Ouais, ou à cause du Bluetooth en veille, la batterie se vidait dans la nuit.
C'est ça, absolument.
Oui, visiblement, ça marche bien, d'après ce que j'ai pu voir sur les premiers retours sur Twitter, ça règle le problème.
Et puis aussi, une version 8.5 bêta 2 de WatchOS. Hein.
Oui, et j'étais en train de regarder là à l'instant. Mais il y a marqué, ça contient des corrections de bugs et des améliorations. Voilà.
Très bien. Bon, le programme bêta continue. On parle d'arrivée de ces OS dans la première quinzaine du mois de mars, si je ne me trompe pas.
Comme par hasard, en pleine keynote. Oh, tiens.
Oh, c'est dingue. Allez, dans un instant, les rumeurs de la semaine, à tout de suite. Les rumeurs de la semaine, et on commence par ce nom d'un nouvel OS qui a été débusqué dans du code Apple par plusieurs développeurs. Ce nom, c'est Reality OS. Et là, il n'y a plus trop de doute, Ellie, sur ce à quoi il pourrait être destiné.
Et oui, il y a deux informations importantes. La première, c'est qu'effectivement, on s'approche de la réalité virtuelle et augmentée, puisque maintenant, il y a un OS pour ça. En tout cas, il y a un nom d'OS pour ça. Et que cet OS a été, en fait, utilisé. Et donc, il y a des gens qui ont pris les logs sur des uploads dans un App Store. Et donc, la deuxième information importante, c'est que ce Reality OS permettra d'avoir sa propre App Store. C'est-à-dire qu'il y aura des applications que les gens pourront télécharger depuis un App Store spécial. Donc ça, c'est très important, parce que ça veut dire que les tierces parties pourront accéder et rajouter, ce qu'on ne doutait pas, évidemment, on sait bien qu'Apple allait le faire. Et donc, ça veut dire que probablement, ça sera présenté à la WWDC, et les développeurs verront ce qu'Apple a fait comme OS, comme interface, et Apple leur dira, mais vous avez un App Store à votre disposition, allez-y, travaillez, uploadez, et on le lancera dans quelques mois. Donc,
il va y avoir des API idoines présentées vraisemblablement à la WDC, du coup.
Exactement.
Autre bruit de couloir, il vient de Mark Gurman de Bloomberg. Apple avait envisagé, selon lui, d'intégrer Face ID à l'iMac 24 pouces M1. Il aurait été le premier Mac à profiter de la technologie de reconnaissance faciale. Mais Apple a apparemment changé d'avis. Et pourtant, François, c'est plutôt dans un iMac que ce serait le plus évident à intégrer, parce que ce serait apparemment plus facile que dans un MacBook Pro, par exemple.
Ouais, je pense que ne serait-ce que par rapport à l'inclinaison, l'inclinaison de l'iMac n'est pas énorme, alors que sur un portable, c'est beaucoup plus. C'est vrai que ça aurait été chouette sur l'iMac 24 pouces. Apple a dit qu'il y avait toujours un clavier, donc Touch ID, ça se tenait sur le clavier. Maintenant, voilà, je trouve que le fait qu'il y ait la grande bordure sur le... J'ai un iMac en face de moi, donc c'est pour ça que je le dis. Avec la bordure en haut, il y aurait clairement de quoi mettre tous les capteurs. C'est dommage qu'Apple ne l'ait pas fait. Maintenant, comme je l'ai dit dans Hi5, moi je mets une petite pièce pour l'iMac 27 pouces, le fameux iMac Pro, je mets des guillemets, l'iMac Pro, ça se tiendrait bien. Maintenant, à mon avis, on aura le droit aux deux, je pense, c'est-à-dire qu'on aura à la fois sur le clavier... Et sur l'écran, parce qu'Apple va pas s'amuser à développer des claviers différents.
Ouais. Gilles, est-ce que tu vois cette techno de Face ID arriver sur un écran Apple externe aussi ?
Ah, externe, je sais pas, mais pour le retard à l'allumage, c'est peut-être un problème de composants, pour deux raisons. Il y a tout un tas de composants qui sont intégrés par STMicroelectronics, qui a peut-être... d'autres chats fouettés en ce moment et qui est confronté d'une part à la difficulté d'approvisionnement et vraisemblablement à une hausse de la demande d'Apple. Et s'il y a une hausse de la demande en iPhone qui s'est particulièrement bien vendu le trimestre de Noël, il y a moins de composants disponibles pour l'iMac. L'écran externe, pourquoi pas, ils ont historiquement été bénéficiaires de l'ensemble des fonctionnalités apportées par Apple, avec la caméra, avec le son, tout un tas de... Les écrans étaient chers, mais bien dotés, quoi.
Et puis, troisième rumeur, elle concerne peut-être une V2 des AirPods Max, puisqu'Apple vient de se voir attribuer un brevet qui décrit des commandes tactiles sur les côtés d'un casque qui ressemble énormément dans le brevet au AirPods Max. Ces commandes tactiles, est-ce qu'elles pourraient remplacer la couronne digitale, Ellie, à ton avis, sur une éventuelle deuxième version ?
Oui, C'est ce qu'on a entendu, et moi je trouve que ça serait une bonne chose. Alors évidemment, il y a toujours les nostalgiques de la Digital Crown qui vont dire « Oh non, c'est un scandale, c'est bien d'avoir ça ». Mais dans un casque, moi, les fois où j'ai utilisé les AirPods Max, j'aurais préféré nettement avoir un bouton plutôt que cette petite couronne. On essaye de régler le volume, des fois il faut appuyer. Honnêtement, ça n'a pas de sens dans un casque. Déjà dans la montre, on parle d'une future Apple Watch qui n'aurait plus de Digital Crown. Donc ça aussi. Et donc Digital Crown, c'était vraiment le bébé de Johnny Ive. Et à un moment donné, le design change et il est peut-être temps de passer à autre chose.
François écoute en montrant son Apple Watch au poignet. Hein.
Oui, moi aussi.
Gilles ?
C'était pour rappeler la Digital Crown, c'était pour rappeler les montres haut de gamme qui sont très prisées, des CSP++++++. En ce qui concerne le brevet... Quand on dépose, on travaille sur un brevet, sur un design, on couvre l'ensemble des aspects et des aspects voisins. Voilà.
Et puis on va rappeler qu'il manque quand même toujours le support de l'audio haute résolution et du lossless hein, sur les AirPods Max, ainsi qu'éventuellement un petit interrupteur marche-arrêt. Hein, ce serait bien sur une V2.
Et une vraie sacoche de transport.
Et une vraie sacoche, bien sûr.
Non, il y a bon, la Gucci.
Oui, mais c'est ça. Sûr, on est bête. Allez, dans un instant, le tuto audio. Je vais vous expliquer comment créer votre propre Memoji sur Mac dans iMessage. Le tuto audio, après les Animoji, vous vous souvenez qu'Apple a lancé les Memoji en 2018. Ces avatars personnalisables en 3D sont apparus sur iPhone pour être utilisés principalement dans les messages. Mais ils ne sont pas limités à l'iPhone. La preuve, vous pouvez aussi créer votre Memoji à vous sur Mac. Alors voilà la marche à suivre très simplement. Vous allez commencer par ouvrir l'appli Messages, donc sur votre Mac, et vous allez cliquer sur n'importe quelle conversation, peu importe, dans la colonne de gauche. En bas de la colonne principale des messages, juste à gauche de la case de saisie de votre prochain message, il y a une seule icône, c'est l'icône App, avec un A à l'intérieur. Cliquez dessus, et dans le menu qui apparaît, choisissez Autocollant Memoji. Dans la fenêtre qui apparaît, en haut à gauche, vous allez découvrir les trois points dans une bulle. Cliquez sur les trois points et choisissez « Nouveau Memoji ». Voilà, vous y êtes. À partir de là, c'est à vous de jouer, à vous de choisir la couleur de peau qui vous correspond, les cheveux, la coupe de cheveux, la bouche, le nez, les lunettes et tous les accessoires à votre disposition pour vous ressembler le plus possible. Une fois que vous aurez terminé, votre Memoji ou vos Memoji, puisque vous pouvez en créer autant que vous voulez, deviendront dispo et ils seront synchronisés sur tous vos appareils qui utilisent votre Apple ID.
J'ai essayé en temps réel, ça marche.
Ma maison connectée, le rendez-vous domotique, c'est avec toi François. Alors, c'est un début d'année assez calme, hein, j'ai l'impression.
Oui, je t'avoue que je commence à me demander si c'est moi qui suis pas bon pour trouver les nouveautés ou si c'est qu'il se passe rien. Donc c'est bien, je pense que je vais être le module de régulation. Si on fait trop long, j'ai même pas besoin de raccourcir en fait, parce que vu qu'il y a pas grand chose à dire, au moins c'est rapide. Il y a juste eu deux petites nouveautés qui ont retenu mon attention depuis trois semaines. Première nouveauté, on a déjà parlé de la gamme Aquara de nos amis de chez Xiaomi. Il y a un nouveau modèle de caméra qui vient de sortir. Il y avait la G2 qui était sortie il y a déjà quasiment une bonne année. Ils ont sorti un nouveau modèle Pro qui s'appelle la G2 H Pro qui était disponible uniquement en Chine jusqu'à Noël et elle est disponible maintenant sur en France, donc vous la trouvez aussi sur l'Apple Store. Alors il y a quelques petites nouveautés. Alors honnêtement, c'est pas énorme. La vision de nuit a été améliorée, vous pouvez avoir de la compatibilité avec un NAS, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer directement votre caméra sur les images issues de votre caméra sur un NAS. Et puis évidemment compatible HomeKit, mais ça c'est pas nouveau. On voit vraiment que du côté de chez Aquara, il y a vraiment une volonté forte de développer une gamme HomeKit. Par exemple, vous avez aussi disponible depuis quelques temps Je l'avais pas repéré, je l'ai repéré, je trouve ça plutôt pas mal. Vous savez, souvent à la maison, vous pouvez avoir des petits volets intérieurs, des rideaux. Il y a un module connecté aussi qui existe, qui vaut moins de 70 euros, donc c'est plutôt intéressant. Je l'ai pas testé, mais voilà, il paraît que ça tourne plutôt pas mal d'après les premiers retours que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez tester de la domotique pas trop chère. Je pense que Aquara est une bonne piste. Et puis nos amis de chez Philips ont sorti de nouveaux modèles de Philips Hue. Il y a un modèle que je trouve plutôt sympa qui est un petit lampadaire extérieur que vous pouvez mettre voilà devant chez vous. Ça reprend un peu les vieux lampadaires qu'on pouvait avoir en ville noirs qui sont plutôt esthétiques. Donc compatible évidemment avec le système le pont connecté Philips. Et puis quelques petites nouveautés aussi avec des filaments, des lampes à filaments. Philips en avait déjà sorti, il y a des nouveaux modèles qui sont sortis, donc voilà. Le seul petit bémol que je mets toujours moi sur cette gamme là, c'est très performant. Les deux inconvénients pour moi, c'est qu'il faut toujours un pont connecté, ça c'est chiant à rajouter, ouais. Ça fait toujours un truc de plus. Et l'autre limite, c'est le prix. C'est vrai que Philips fait de très bons produits, mais le problème, c'est qu'ils sont quand même assez chers. Et aujourd'hui, vous trouvez des ampoules connectées à 10-15 euros. Quand on voit chez Philips, c'est quand même 2-3 fois plus. Vous voyez le petit éclairage extérieur, le petit lampadaire, c'est quand même 100 euros l'éclairage. Donc voilà. Et puis, il faut évidemment avoir de l'électricité à l'extérieur chez vous, quoi.
C'est tout pour ce soir, François.
C'est tout pour ce soir, Benjamin.
Mais merci pour ce petit point HomeKit avec ma maison connectée. Élie, bah écoute, je pense que tu peux allumer le four. Hein. On va se mettre à table. On va commencer par un petit cocktail, je crois, mais je ne sais pas si on est vraiment partant pour un cocktail Molotov. À tout de suite. Entrée plat dessert, c'est ton dîner, Élie. Bah écoute, nous sommes tes convives du soir. Que nous réserves-tu ?
Alors, en entrée, un petit cocktail, effectivement, Molotov. Et pourquoi Molotov ? Parce que Molotov, c'est cette application que nous connaissons tous et qui permettait de regarder d'abord la TNT gratuite et ensuite de s'abonner à un certain nombre de chaînes payantes, etc. Et depuis longtemps, quand on a des chaînes comme ça, il y a toujours deux mauvais élèves, un qui s'appelle TF1 et un autre qui s'appelle M6, qui disent « Vous voulez voir nos chaînes ? Il faut payer ». Ils ont été en guerre avec Free, ils ont été en guerre avec tous les opérateurs, etc. Sauf peut-être Orange, parce qu'Orange, ils ont dû payer, ils ont de l'argent. Bref, et donc là, c'est le pauvre Molotov qui débarque et on leur dit « Vous ne pouvez plus diffuser nos chaînes, il faut payer ». Et donc, ils ont discuté, ils ne se sont pas du tout entendus. Et du coup, ils ont mis TF1 et M6 dans une option payante. C'est-à-dire, si vous voulez regarder des chaînes gratuites de la TNT, il faut payer. Et je trouve ça... pas très normal, c'est un débat et je suis sûr que mes camarades ont des arguments, mais je trouve pas logique que la TNT, où il y a 35 chaînes, si je me rappelle bien, qui sont gratuites et qu'on paye avec notre redevance télé, et bien que des chaînes, même si ce sont deux chaînes privées, hein, bien entendu TF1 et M6, fassent payer la diffusion tout en bénéficiant de subventions qui viennent de nos impôts. Donc je trouve que... Alors elle devrait pas être dans la TNT gratuite si c'est le cas. Donc bon, c'est comme ça.
François ?
Ouais, moi je rejoins complètement ce que vient de dire Élie. Je trouve ça. Et en fait, ils veulent le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Je me souviens qu'à une époque, TF1 avait arrêté d'être diffusé sur la Livebox parce que justement, Orange voulait pas payer, c'était les replays en particulier. Enfin, il y a un moment, il y a de la publicité, quoi. Donc les gens qui regardent Molotov, moi je fais partie des gens qui utilisaient le service Molotov, on se tape la pub de TF1. Donc il faudrait en plus payer pour avoir la pub. C'est pas logique. Et voilà, moi personnellement, je trouve ça naze.
En deux mots, données personnelles.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que si tu veux regarder soit M6, les chaînes du groupe M6, soit les chaînes du groupe TF1, il faut s'enregistrer chez eux ou sur leur application. Et à ce moment-là, on envoie les données personnelles. C'est ça qu'ils veulent.
Mais pas sur la TNT ? Oui. Les flux sont gratuits sur la TNT, donc c'est pas logique.
Ils sont gratuits sur la TNT, mais moi j'ai Orange et ils vont te faire suer en te demandant si tu veux avoir une expérience personnalisée en laissant Orange collecter des données personnelles qui sont partagées forcément avec les.
Mais ce qui est dommage, si tu veux, c'est que. Je suis d'accord, mais ce qui est dommage, c'est qu'une appli comme Molotov, qui était vraiment basée là-dessus, se prive des chaînes qui sont quand même parmi les plus regardées en France. Uniquement pour une histoire de sous. Et quand on te dit, OK, tu veux regarder TF1, paye. Moi, personnellement, je dirais non.
Ils n'ont pas le choix.
Ils n'ont pas le choix. Je t'en fous, t'as MyCanal.
Mais MyCanal te permet de le faire. C'est pour ça que c'est injuste.
Mais Canal doit payer.
C'est par abonnement. C'est par abonnement. Molotov est un service gratuit. Et donc, s'ils veulent rémunérer, passer sous les fourches codines d'M6 ou de TF1, il faut qu'ils trouvent l'argent quelque part. Donc, c'est pas la faute de Molotov.
Je me demande s'il n'y a pas des enjeux qui vont au-delà de ça, parce que sauf erreur, je crois que Molotov a été racheté par Altice. Sauf erreur de ma part, Altice, c'est le groupe de SFR,
oui.
Notamment.
C'est ça.
Et aussi de BFM TV, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres enjeux ? Pas impossible.
C'est juste pour faire chier, pardon.
Bon, passons au plat de résistance, mon cher Eli.
Oui, alors c'est une info, bon, encore un peu, vous allez me dire, peut-être sulfureuse ou qui prête à discussion. Et c'est une info qui vient vraiment officiellement d'une grande chaîne de télévision espagnole, hein, qui est, en fait, c'est la mauvaise semaine pour Mark Zuckerberg, hein, parce que figurez-vous qu'il y a donc une femme qui aurait été violée dans le métaverse. Et donc, c'est vraiment une info documentée, c'est pas du tout un hoax ou quoi que ce soit. Donc, c'est en fait une chercheuse qui s'appelle Nina Jane Patel, de 43 ans, qui travaille dans une société qui fait des études sur les univers virtuels et le métaverse. Et donc, elle a dû avoir une invitation pour aller dans le métaverse Facebook qui s'appelle Horizon Worlds. Cette chercheuse explique qu'elle s'est connectée pour travailler, disait-elle. Et donc, au bout de 60 secondes, elle a été agressée verbalement et sexuellement par 3 ou 4 avatars masculins, avec des voix d'hommes, hein, parce que maintenant c'est pas trop, mais donc des avatars masculins avec des voix d'hommes, qui l'ont violée, déshabillée et prise en photo. Et donc, elle a porté plainte. Mais c'est là où on arrive aux choses où je ne comprends pas, où je ne sais pas. Comment est-ce possible, dans un univers virtuel, de déshabiller quelqu'un ? Parce que ceux qui ont fait du Second Life ou autre chose, vous approchez de quelqu'un, vous pouvez taper dessus, mais vous ne pouvez pas le manipuler, le déshabiller ou quoi que ce soit. Et le prendre en photo. Et en plus, une photo virtuelle d'un avatar. Hein, donc, cette dame s'est en fait exprimée dans les réseaux sociaux, elle s'est beaucoup plainte, peut-être qu'elle cherche à gagner de l'argent, j'en sais rien. Elle s'est pris une volée de bois vert d'internautes qui lui ont dit « mais qu'est-ce que tu foutais ? D'abord, t'avais qu'à mettre un avatar d'homme, ce qui n'a strictement rien à voir avec cette histoire, ou alors tu l'as bien cherché, etc. » Mais de quoi parle-t-on ? C'est un univers virtuel. Et alors évidemment, grosse campagne en disant « si vous laissez vos enfants aller dans le métavers, ça va être un drame. »
Bon, » bon, écoute...
À suivre.
C'est récent.
C'est pas une bonne pub pour le métaverse, en tout cas.
Ça date de début de semaine. Début de semaine.
Parce qu'il y a déjà eu quelque chose de cet ordre-là. Et Facebook avait communiqué sur le thème de « c'était sa faute ». Elle avait la possibilité de déclencher une bulle qu'il aurait mise à l'abri et elle ne l'a pas fait.
D'accord. Bon, écoute. Bon, alors.
Ça va pas aider, ça va pas aider le métavers pour parler français, hein.
Non, c'est clair. Mais c'est pour dire, c'est pour ça que je disais que c'était pas la bonne semaine pour Facebook. Hein,
non,
parce que si en plus ils se prennent un procès, alors attention, ça pourrait être un procès virtuel dans un univers virtuel où ils seraient obligés de payer de l'argent à cette dame en monnaie virtuelle, puisque nous sommes dans le métaverse.
Bon.
Passons au dessert.
Revenons dans le monde réel, Eli, pour le dessert.
Oui. Alors. Un petit dessert rapide, j'essaie de respecter mon timing. Donc, figurez-vous, pour ceux qui connaissent la société suisse qui s'appelle Infomaniac, nous, on le connaît bien puisqu'ils font un produit qui s'appelle Swiss Transfer. Et donc, cette société vient de sortir maintenant un concurrent à iCloud, Google Cloud, Microsoft Drive, etc., puisqu'ils proposent gratuitement un espace de stockage de 15 gigas, quand même pas négligeable, pour stocker, synchroniser vos photos, mais aussi pour faire du travail collaboratif, puisque c'est compatible avec Office, donc Word, Excel, PowerPoint. Ça peut importer automatiquement vos contacts de Google Drive, Dropbox, etc., etc. Donc très bien, très bien. Ça vous permet d'avoir des adresses mail gratuites sans publicité. Vous avez le choix de mon adresse et vous propose @ic.com, @ic.me, donc bizarrement. Et en fait, la société, enfin, le produit s'appelle Ethic. Donc vous pouvez aller regarder. Évidemment, il y a des options payantes si vous voulez des services plus professionnels, mais ils ont aussi un calendrier en ligne et ils ont aussi une visioconférence gratuite et illimitée. Donc toute une série de services gratuits. Il suffit d'aller sur etik.com et regarder. Évidemment, ils vont essayer de vous faire prendre une option payante, mais vous n'êtes pas obligé, parce qu'avec 15 gigas, déjà, je pense qu'on est pas mal, comme dessert.
Bon, bah merci, Ellie, pour ce tuyau. Etik, E-T-I-K, c'était ton dessert de la semaine. Nos coups de cœur de la semaine, et on démarre par toi, François. Tu as une minute pour nous présenter ton coup de cœur de la semaine.
Eh ben, mon coup de cœur, on en a parlé dans l'épisode d'i5 d'hier, c'est la dernière version de Tweetbot. Hier, je n'avais pas eu l'occasion de l'utiliser, de la télécharger, et maintenant, c'est fait. Donc la version 7 qui utilise les dernières API de Twitter. Donc maintenant, on retrouve les statistiques, c'est plutôt bien fait, je trouve ça plutôt léché, l'interface est toujours sympa, il y a des nouveaux thèmes. Voilà, délaissez l'application officielle Twitter, n'hésitez pas à vous abonner à Tweetbot. L'abonnement annuel est à moins de 7€ par an. Donc du coup, ça, je trouve ça plutôt intéressant, ça permet à une équipe de développeurs de faire une application qui est vraiment bien. Donc si vous aimez bien Twitter, si vous traînez beaucoup sur Twitter, n'hésitez pas à essayer Tweetbot, vous verrez, vous ne le regretterez pas.
Et ça permet de faire quoi en plus en 10 secondes ?
Ah, concrètement, rien de plus que ce que tu as sur Twitter, à part que tu as l'ordre chronologique et que tu n'as pas de publicité.
Normal.
Et l'interface est beaucoup plus sympa.
C'est déjà pas mal. Merci François pour ce petit rappel pour ceux qui étaient à l'écoute d'i5. Ellie, on passe à toi, ton coup de cœur de la semaine. Quel est-il ?
Absolument. Alors très rapidement, retenez ces trois lettres, VIZ, V-I-Z. C'est un coup de cœur dont on va parler et c'est un produit qu'on va vous présenter dans une prochaine version d'iWeek. François et moi, on va essayer d'étudier ensemble parce qu'en fait, figurez-vous que VizDesign, ça s'appelle comme ça, est un logiciel qui permet de créer des espaces HomeKit, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dessiner une pièce, une maison ou mettre une photo et vous allez pouvoir rajouter des accessoires HomeKit. Par exemple une lampe, si vous prenez la photo de votre salon et que vous avez un lampadaire, vous allez cliquer dessus, ça va l'allumer. Ou vous allez pouvoir avoir un chauffage, vous allez cliquer dessus, vous allez pouvoir choisir le type de thermostat, circulaire, vertical, etc., avec des couleurs et tout. Donc le truc est super étonnant, on fait le design sur un Mac et ensuite on l'exporte sur un iPhone ou un iPad. Et ça devient une interface comparable à ce qu'on peut trouver dans des systèmes qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, comme de l'Ultron ou du... je ne me rappelle plus, il y a des systèmes de domotique qui coûtent vraiment des fortunes. Et il y a des exemples où, en fait, avec un iPad, on crée une centrale domotique avec des caméras qui s'affichent, les températures, on peut importer des pages web. Donc, on fait une interface utilisateur qui est incroyable, qui a l'air très facile à utiliser. Et donc, j'essaye de les contacter pour obtenir des versions de test. Et François et moi, on va vous pondre un petit tuto de comment paramétrer votre maison pour qu'elle ressemble enfin à une maison.
Eh ben écoute, avec grand plaisir. Moi, j'ai hâte de découvrir ça. Gilles, ton coup de cœur de la semaine, est-ce qu'on reste dans le domaine de la musique ?
Tout à fait. Vous vous souvenez peut-être du clip de la chanson Get Back des Beatles sur le toit de l'immeuble de l'Apple Corp.
Ouais.
Et la vidéo a circulé là, récemment sur Internet et maintenant est disponible, non pas l'album, mais parce que le concert a été interrompu par la police. On a vu les Bobbies qui écoutaient sagement avant d'inciter les Beatles à remballer leur matos. Là, on a un IP qui s'appelle Get Back Rooftop Performance sur Apple Music et qui est disponible en high-res et également en audio spatial. Voilà. Il y a plusieurs prises, comme d'habitude, avec les ressuscés de Yoko Ono, mais c'est intéressant pour les fans des Beatles.
Mais ça veut dire que c'est un live ou c'est...
C'est tout à fait le live qui avait été tourné à ce moment-là et qui servait pour le clip.
D'accord, ok, très super. Bien. Et ben moi, mon coup de cœur, c'est toujours dans l'univers de la musique. En fait, c'est la promo autour d'Apple Music si vous achetez un HomePod mini. Alors, j'avais fait le calcul dans i5 cette semaine avec toi, François, je crois. C'est un calcul qui va sans doute te parler, Élie, parce que tu nous avais dit déjà tout le bien que tu pensais de ce chargeur 20 watts qui est dans la boîte du HomePod mini, chargeur qui à lui seul vaut 25€, si je ne me trompe pas. Donc ça fait déjà que le HomePod mini ne vous coûte entre guillemets en tant qu'enceinte que 74€. Mais si vous achetez un HomePod mini, vous avez 6 mois d'Apple Music gratuit. Et 6 mois à 10€, ça fait 60€.
Oui.
Donc ça fait que le HomePod mini ne vous coûte en fait que 14€. Si on fait le calcul un petit peu comme ça à l'envers. Alors c'est d'autant plus intéressant que depuis quelques jours, la période d'essai d'Apple Music est passée de 3 mois à 1 mois seulement.
C'est vrai.
Sauf si vous achetez un Mac ou un matériel éligible. Dans ce cas-là, vous avez quand même droit toujours aux 3 mois, mais la période d'essai n'est plus que d'un mois. Donc acheter un HomePod mini, c'est un bon moyen d'avoir une demi-année de musique gratuite. Pensez-y, on ne sait jamais. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 77 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. C'était un bonheur de la passer avec vous tous qui nous écoutez, qui nous suivez fidèlement chaque semaine. Merci pour votre présence, votre fidélité. C'est vraiment très chouette de vous savoir au bout de ces micros. C'était un plaisir de vous retrouver, les amis. Salut Gilles, merci d'avoir été là.
C'était un plaisir, tu l'as dit, je ne peux que le répéter. Je vous dis à bientôt, à jeudi, j'espère.
Avec grand plaisir, Gilles. Salut, Élie.
Salut, à bientôt. Peut-être pas la semaine prochaine, je vais essayer, mais je ne vous le promets pas. Mais sinon, à dans 15 jours, sans faute.
C'est vrai que c'est une semaine de vacances qui commence. Vacances pour toi aussi, François?
Eh oui, je vais vous abandonner pendant une semaine pour partir à la montagne, respirer l'air frais de la montagne, ça changera de la mer.
Et vive les fondues et les raclettes, tu penseras à nous en bronzant à la montagne. On vous donne rendez-vous, en tout cas pour ceux qui seront là jeudi prochain, on sera le 17 février, ce sera l'épisode 78, d'ici là passez une très bonne fin de semaine, un très bon week-end, n'oubliez pas i5 sur Spotify et Apple Podcast, essayez-le, abonnez-vous à ce podcast quotidien, 5 minutes par jour, 5 jours par semaine, pour 4,99€ sur Spotify et Apple Podcast. Twitter @iWeekNews et le hashtag iWeekLSA pour communiquer avec nous. Et puis toujours Patreon pour soutenir iWeek. Patreon.com/iWeek à partir d'€1,50 par semaine. On a besoin de votre soutien. Merci à nouveau à nos contributeurs sans qui ce podcast ne serait tout simplement pas possible. Allez, passez une très bonne semaine et on se retrouve jeudi prochain. Ah, ciao, bye bye. Salut à tous.
Salut.
À bientôt.